Le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Histoire de ma recherche.
Quelles recherches mènent les chercheurs? Pourquoi écrivent-ils des articles et des livres? Comment le font-ils? Quel est l'intérêt de ce travail pour leur science et pour la société? Un robot peut-il se substituer à un kinésithérapeute pour soigner vos douleurs lombaires? Y a-t-il une substitution ou une complémentarité entre l'homme et la machine? Que faut-il d'une intelligence artificielle pour que cela fonctionne? Comment des roboticiens et des informaticiens peuvent-ils travailler avec des médecins? Nous recevons aujourd'hui André Thépeau, professeur émérite à l'IMT Atlantique, à l'origine du projet Keral, dont l'objectif est de concevoir un robot humanoïde capable d'assister des patients de manière personnalisée pour leur rééducation fonctionnelle. Bonjour Monsieur Thépeau. Pourriez-vous vous présenter rapidement votre parcours, votre spécialité et celle de votre laboratoire, enfin du laboratoire que vous avez dirigé?
Bonjour, merci Monsieur Le Maine pour cette invitation. Effectivement, j'étais professeur à l'IMT Atlantique, qui s'appelait Télécom Bretagne. Donc moi, ma spécialité, c'est l'informatique. Donc j'ai passé une thèse sur les réseaux de neurones artificiels il y a déjà plusieurs décennies. Et ma spécialité, c'est l'assistance aux personnes fragiles à l'aide de nouvelles technologies. Donc depuis une vingtaine d'années, avec mes collègues, des doctorants, des étudiants, on met au point des systèmes, des dispositifs, des plateformes pour aider les gens en situation fragile, donc des personnes en situation de handicap, que le handicap soit lié à l'âge ou la maladie. Donc notre pari, c'est que les nouvelles technologies peuvent aider ces personnes, non pas se substituer à une présence humaine, rien ne va remplacer la visite d'une petite fille à sa mamie, mais on est persuadé que les nouvelles technologies peuvent aider les personnes fragiles, les personnes isolées, etc.
Oui, tout à l'heure, vous avez fait la différence entre... Moi, j'ai eu le mot malheureux de prothèse, et vous avez dit non, pas prothèse, orthèse, c'est ça.
Oui, effectivement, la prothèse vient remplacer un membre absent. On va faire une prothèse de la hanche, une prothèse de la jambe. Nous, on va travailler plutôt sur des orthèses, dont l'orthèse, contrairement à la prothèse, ne vient pas remplacer, mais substituer une fonction. Donc, vu mon âge avancé, j'ai des lunettes, par exemple, eh bien, on peut dire que la lunette est une orthèse parce qu'elle vient compenser la presbytie dont je souffre depuis quelques années. Donc, voilà la différence. Donc, on fait des orthèses informatiques.
D'accord. J'apporte une deuxième précision. Vous avez parlé de thèse sur réseau de neurones, précision. Réseau de neurones, c'est ce qui serait à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui le deep learning, c'est ça, hein?
Exactement. Donc, moi, ma thèse date des années 90, donc je travaillais avec d'autres doctorants sur des systèmes de reconnaissance de formes. Et à l'époque, on travaillait sur des réseaux de neurones artificiels, parce que le réseau de neurones artificiels s'inspire des neurones cérébraux, des neurones biologiques, ces neurones étant interconnectés par des synapses. Et nous, on mettait au point des petites cellules informatiques, ces neurones artificiels qui sont connectés par l'équivalent des synapses qui sont les poids synaptiques. Et donc, dans les années 90, on avait déjà de bonnes performances pour reconnaître l'écriture manuscrite, pour reconnaître des chiffres manuscrits. Et puis ensuite, il y a eu un long désert de plusieurs décennies de ces réseaux de neurones artificiels jusqu'à l'arrivée de deux facteurs. Le premier, c'est la puissance des machines qui a été multiplié par un facteur très 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 important, parce que ces calculs neuronaux, entre guillemets, sont très très gourmands en calcul. Et puis le deuxième facteur qui a amené à la révolution des réseaux de neurones artificiels, eh bien, c'est le nombre d'exemples. Parce que contrairement à un algorithme, le réseau de neurones artificiels va travailler sur des exemples. Il lui faut des milliers, des millions, des milliards d'exemples pour pouvoir reconnaître une voix, reconnaître un visage, reconnaître une tumeur dans une mammographie. Donc il y a de plus en plus d'exemples avec des gros acteurs comme Google, Facebook, etc. Des exemples qui sont même étiquetés par vous et moi, sans le savoir. et puis la puissance des calculs. Et ces deux facteurs font qu'on arrive à cette révolution qu'on appelle deep learning. Alors pourquoi deep learning ? C'est l'apprentissage profond. Parce que les réseaux de neurones avaient auparavant 3 couches, 4 couches, et maintenant ils ont des dizaines de couches. La taille des données manipulées est énorme et on l'appelle apprentissage profond. Mais les algorithmes d'apprentissage n'ont pas beaucoup varié depuis 3 décennies.
Oui, ça c'est important quand même de le dire, parce que il semble, selon ce qu'on vous dit, les concepts, les notions et les théories étaient là en 90. Ce qui manquait, c'était la puissance à la fois de calcul et de mémoire pour confronter la machine à suffisamment d'exemples.
Exactement, exactement.
Il y a peut-être un deuxième mot que vous avez utilisé, c'est étiqueter. Parce que tout à l'heure, avant l'émission, je vous ai posé la question qu'est-ce qu'un apprentissage non supervisé ? Vous pouvez peut-être réexpliquer en une phrase ou deux. C'est non supervisé, mais c'est étiqueté après coup. Alors.
Voilà. Donc, effectivement, il y a plusieurs familles d'apprentissage. L'apprentissage non supervisé, non supervisé, apprentissage par imitation, apprentissage par renforcement. Et avant l'émission, nous discutions donc de l'apprentissage non supervisé. Non supervisé parce qu'il n'y a pas de professeur. Donc je vais, par exemple, on a eu des projets il y a quelques décennies déjà avec Ifremer, et nous avions des échos de poissons. Donc le système va venir classer ces échos de poissons. Voilà, il va faire des amas d'échos, mais sans savoir que c'est un écho de sardine, un écho de banc de thon, un écho de banc de lieu, etc.
Il ne se charge que de distinguer des formes, voilà, distinctes.
Des formes, et il fait des amas.
Ouais.
Et ensuite, dans un deuxième temps, que cette phase d'apprentissage automatique est terminée, c'est-à-dire le système non supervisé a fait un premier amas, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième. Cette phase d'apprentissage est terminée. Et ensuite, l'expert va venir étiqueter en disant bien, tout ce premier amas, c'est des échos de sardines. Ce deuxième amas, c'est des échos de thon. Et ensuite, eh bien, on va mettre ce dispositif en fonctionnement sur un bateau, par exemple, et le système va voir un nouvel écho, et il va le greffer à l'amas, mais l'amas, vous voyez, l'image a été étiquetée. Voilà. Et donc, on va voir, là, maintenant, à quelle catégorie de poisson correspond le banc qui est décelé en direct.
Et en ce sens, on est sur un apprentissage non supervisé, juste étiqueté.
Voilà.
D'accord, ouais. Bien, alors revenons au projet Keral, peut-être d'abord, un, le décrire, et deux, enfin son objectif, et la genèse. C'est intéressant comment naît un projet. Ouais.
Alors effectivement, dans le projet Keral, donc Keral...
Qui veut dire peut-être, parce que moi j'ai pas réussi à trouver la définition avec les mots, hein, Keral.
Alors Keral, souvent je trouve les noms des projets la nuit. Alors pour Keral, je l'avais appelé Keral, K comme kinésithérapie et rééducation. Donc voilà pour le care. En plus, ça faisait un peu breton.
Ça fait le care aussi, le soin. Moi.
Voilà. Non, care, c'était la maison.
Ok, voyez. D'accord. Ouais.
En anglais, care, al. Et puis al, ben, tous nos projets, on met le suffixe AAL. AAL, c'est Ambient Assisting Living. Donc assistance à la personne. Donc depuis 15 ans, on a fait le projet Sigal, le projet Vital, le projet Keral, etc., etc., etc. Donc Keral, c'est kinésithérapie et rééducation pour les personnes fragiles. Puis ça le fait aussi très bien en anglais.
Je l'ai trouvé nulle part sur Internet, mais bon, j'ai peut-être mal cherché.
Voilà, donc la genèse, eh bien, on avait gagné un autre projet, un gros projet, avec l'Université de Bretagne Occidentale, les écoles ingénieurs de Brest, l'Université de Bretagne Sud. C'était un contrat plan État-région en 2015-2016. Donc un projet qui n'est pas terminé, qui va se terminer en 2021. Et ce projet, on l'a gagné tous ensemble, les Finistériens et les Morbihanais.
C'est le projet HAL
Oui, le projet Vital.
D'accord, ok.
Donc que j'avais aussi trouvé la nuit. Vital, comme vaincre l'isolement par les technologies. Toujours dans le contexte AAL, Vital. D'accord. Et je me disais, c'est un projet vital pour la Bretagne.
Oui.
Effectivement, les reviewers ont été sensibles parce que le projet a été accepté. Et grâce à ce projet, que ce soit l'Université de Brest ou Télécom Bretagne, parce qu'on s'appelait comme ça à l'époque, ou l'Université de Bretagne Sud ou le CHU de Brest, nous avons pu acquérir de nombreux matériels, parce que le contrat plan État-région sert à acheter du matériel et non pas à payer des chercheurs. Et parmi ces nombreux matériels que nous avons acheté plusieurs types de robots, parce que dans l'équipe, on venait de recruter plusieurs roboticiens. Et j'étais persuadé que, après la télévision connectée sur laquelle j'avais travaillé pendant des années, ou des dispositifs pour des enfants souffrant d'IMC, ou des télé... infirmité motrice cérébrale, okay. déjà en lien avec le CHU, j'étais persuadé que les robots, en particulier une catégorie de robots sur laquelle nous travaillons depuis de nombreuses années, qu'on appelle les robots compagnons, donc les robots pouvaient peut-être être un atout dans des projets, peut-être de recherche et peut-être plus loin, pour des personnes fragiles. Comment un robot compagnon peut aider une personne ? Et on a fait plusieurs projets avec des maisons de retraite, dont le robot Nao avec une maison de retraite à Brest, par exemple, où le robot apprenait le breton, ou plutôt le contraire, des personnes âgées apprenaient le breton au robot, etc. Vous voyez ? Ouais. Et donc, de fil en aiguille, on s'est rapproché du CHU de Brest, en particulier de l'équipe d'Olivier Rémineris, que je tiens à remercier. Pour sa confiance et son implication dans le projet. Et ensemble, on a mis d'abord au niveau théorique, au point, une plateforme modulaire dans laquelle nous souhaitions implanter des exercices de rééducation fonctionnelle. Donc, et ce projet, on l'a appelé KERAL, donc kinésithérapie et rééducation, donc dans le contexte de l'assistance à la personne.
D'accord. Pour résumer le projet KERAL, il faut faire un triangle entre un kinésithérapeute, un patient et un robot. Est-ce que vous pourriez détailler un peu ce fonctionnement en triangle là ?
Voilà, tout à fait. Alors, on a rédigé plusieurs publications scientifiques, dont on l'appelait triade. Mais bon, je vois pas bien la différence entre le
triangle. Triade, ça fait chinois un peu.
Voilà. Donc effectivement, on a un triangle ou une triade entre le kinésithérapeute, le robot et le patient. Alors tout d'abord, il y a une première relation unidirectionnelle entre le kinésithérapeute, donc le professionnel de santé, et le robot. Le professionnel de santé va se placer face au robot et va lui apprendre les gestes de rééducation fonctionnelle. Donc on aura peut-être, au cours de notre entretien, l'occasion de revenir sur la manière de capter le mouvement du kinésithérapeute, mais de manière grossière d'abord. Donc le kinésithérapeute se place devant la plateforme, devant le robot, lui apprend un exercice, deux exercices, un certain nombre d'exercices. On a classé les exercices par famille. Et puis ensuite, le robot, avec des techniques d'intelligence artificielle, va apprendre le geste parfait. Donc cette première relation est terminée entre le kinésithérapeute et le robot. Le robot, maintenant, va servir de médiateur avec le patient. Donc dans un deuxième temps, on va mettre le robot face au patient. Le robot va se présenter, va lui dire que pour la séance, il va venir aider le kinésithérapeute, ce qui va éviter au kiné de faire des gestes répétitifs. Et le robot va montrer au patient comment réaliser le geste, ce qu'on va parler aussi sans doute du robot tout à l'heure. Donc le patient va observer le robot, va essayer de reproduire les gestes de rééducation faits par le robot. Avec la même technique que le robot avait appris du kinésithérapeute, le robot va analyser le geste du patient et va vérifier que le geste du patient est correct au sens de la kinésithérapie ou de la rééducation fonctionnelle plutôt. Voilà. Et si le robot estime que le geste correspond à ce qu'il a appris avec le kinésithérapeute, on va dire que c'est un succès, on va peut-être multiplier ces exercices pour faire de la rééducation. Ou alors, peut-être que le patient n'arrive pas à faire le geste. Donc le robot, en temps réel, va se rendre compte que le geste n'est pas parfaitement exécuté. Peut-être que c'est trop difficile, prématuré dans la rééducation. Donc le robot, qui est doté d'une synthèse de parole, et de manière empathique, va expliquer au patient que le geste est bien, mais pour être amélioré et pour ce faire, on va par exemple faire un autre exercice.
Il va parler au patient.
Il va parler au patient. Dans un échange bidirectionnel. Vous voyez, le robot parle au patient et le patient fait le geste et le robot reçoit des informations de la part du patient. Donc voilà comment la triade s'est mise en place. Et on peut imaginer que ces exercices soient multipliés au cours de la semaine ou même au cours de la journée. Moi, quand je joue au football, malheureusement, je me faisais des entorses assez régulièrement. Je bénéficiais d'une séance de kinésithérapie une fois par semaine. Mais les footballeurs professionnels, ils guérissent beaucoup, beaucoup plus vite. Ils multiplient les séances. Donc, on a imaginé que ce robot, à terme, quand le projet sera achevé, puisse être mis à la disposition du patient pour qu'il puisse multiplier les séances au cours de la journée.
Oui, c'est ça, oui.
Pour accélérer peut-être la guérison.
Bon là après, enfin je n'avais pas prévu cette question, mais là on est sur, pour la poursuite du projet, enfin j'anticipe peut-être, voyons cette question après. Oui, alors quel type de compétences faut réunir pour un pareil projet et comment articuler médecine, robotique, informatique, mécanique, électronique?
Ben effectivement, là vous avez cité quelques spécialités, donc il faut des compétences médicales tout d'abord. Oui. Donc grâce au service de rééducation fonctionnelle et en particulier Olivier Rémineris, donc on a identifié ensemble, on a co-construit le projet. Je pense que le projet il est riche parce qu'il fait appel à des compétences donc médicales et des compétences donc en nouvelles technologies. Vous avez cité effectivement l'informatique, l'intelligence artificielle, mais aussi de l'électronique, de la mécanique, parce qu'on n'a pas encore parlé du robot, mais je pense qu'on pourra peut-être revenir sur la fabrication de ce robot, mathématiques, et réseau, voilà. Et tout ceci fait que la mayonnaise prend ou ne prend pas. Donc des chercheurs, des médecins, mais aussi des étudiants, des ingénieurs, et ensemble, on co-construit le projet. Et donc, c'est ça qui est très, très intéressant.
Comment le dialogue se fait entre un médecin et un informaticien, c'est pas...
Oui, ou entre un informaticien et un sociologue, etc. Et ben, il faut trouver déjà un langage commun. Oui. Donc, des fois, il y a des problèmes de vocabulaire. Donc, il faut se mettre à la portée. Le médecin doit se mettre à notre portée pour qu'on comprenne les besoins. Et inversement, lorsqu'on va parler d'informatique ou d'algorithmique ou de mécanique, on va essayer de se mettre aussi à la portée. Il faut trouver un langage, je pense, commun. Et puis ensuite, on va co-construire le projet.
En l'occurrence, là, Olivier Rémineris avait déjà une expérience avec des...
Oui, Olivier Rémineris, on a de la chance parce que lui-même est très féru de nouvelles technologies et de robotique. Voilà, il a une expérience nationale, même internationale. Donc à Brest, on a beaucoup de chance d'avoir un chercheur de cette qualité et qui soit ouvert à d'autres disciplines. Et on voit que les échanges fructueux peuvent apporter des projets qui sont en rupture avec ce qui est connu, comme le projet de rééducation par le robot.
Oui. Peut-être on pourrait définir plus précisément, est-ce que vous pourriez définir ce que c'est un robot, hein? Parce que c'est compliqué, hein, c'est un robot-machine à la cuisine, c'est un robot, c'est un monstre, c'est quelque chose dans l'industrie, enfin bon, comment...
Un robot, c'est d'abord une machine. Donc une machine avec des rouages, avec des câbles. Nous, on va parler de robots humanoïdes, par exemple. Donc les robots sont diffusés dans l'industrie depuis des décennies. Les robots viennent remplacer les tâches répétitives. Donc,
humanoïde, il a la forme d'un humain, oui.
Voilà. Donc, on connaît bien les robots automates qui viennent construire des automobiles. Alors ces robots industriels, ils ne sont pas en interaction avec les humains. Ils sont même protégés sûrement par des cages qui viennent protéger.
Ça, ouais.
Ces robots peuvent être très dangereux. Ils soulèvent des poids énormes, ils font des gestes, ils viennent... On voit tous les robots peindre les voitures, etc. Mais il n'y a jamais d'interaction avec l'humain. Donc nous, on travaille avec une catégorie de robots qu'on appelle les robots compagnons. Et le robot compagnon, comme son nom l'indique, il est proche de la personne. Il vient aider la personne. Donc, j'ai en tête, par exemple, l'exemple du robot Paro. Donc, le robot Paro, c'est un petit phoque qui est capable, une petite peluche qui est capable d'exprimer des émotions.
Ah oui. Donc, de quelle manière alors ?
Eh bien, en jouant sur des petits moteurs qui viennent animer son visage.
D'accord.
Donc, évidemment, vous ne le voyez pas, mais vous le voyez. Il est capable d'exprimer des dizaines d'émotions, la tristesse, la colère, etc. Vous lui parlez, il comprend et ses yeux vont s'ouvrir, la bouche va se mettre dans un sens ou dans un autre, etc.
Ça fait un peu automate, musée des automates.
Oui, mais force est de constater que quand vous le déployez dans une maison de retraite, dans une EHPAD, les personnes âgées, qui sont souvent isolées, vont trouver plaisir à jouer ou à échanger avec ce petit robot, comme elles éprouveraient du plaisir sans doute à échanger avec un animal domestique. Donc nous, on travaille avec ces catégories de robots qui sont les robots compagnons. Donc des robots qui peuvent faire preuve d'empathie, qui sont là pour aider les gens.
Là, il faut alors peut-être ajouter à l'équipe de chercheurs, des psychologues, des...
Oui, si nous avions le temps, on rajouterait beaucoup de spécialistes de sciences humaines. Plus l'équipe est large et plus l'équipe est riche et plus le résultat sera de qualité.
Parce que vous me disiez qu'un des problèmes du robot qui aide à la rééducation fonctionnelle, c'est l'acceptabilité, l'acceptation par le malade. Parce que vous disiez que le malade pouvait avoir peur du robot, ça c'est un... Alors, il a une forme tout à fait gentille. Enfin, moi, je l'ai vu en photo, donc, enfin, je l'ai vu en vrai même. Il a un petit visage sympathique, à la Walt Disney un peu.
Oui, alors, pourquoi on a choisi ce petit robot ? Donc, c'est le robot Poppy, donc, qui est né à Bordeaux, à l'INRIA de Bordeaux. Nous, avec l'équipe d'Olivier Rémineris, on souhaitait s'attaquer au mal du siècle, le mal dodo, les lombalgies. Et donc, pour faire de la rééducation fonctionnelle, pour faire de la rééducation fonctionnelle, il nous fallait identifier un robot qui possède une colonne vertébrale. Et après une étude bibliographique intense, on s'est rendu compte que sur le marché, il n'y avait pas beaucoup, si ce n'est à notre connaissance, il n'y a qu'un seul robot humanoïde qui dispose d'une colonne vertébrale, c'est le robot Poppy. Donc c'était son premier avantage. Deuxième avantage, c'est que ce robot il est fabriqué avec une imprimante 3D. Donc avec l'aide des médecins, on peut faire évoluer le robot. Donc les médecins, par exemple, à un moment, nous ont demandé d'avoir un exercice supplémentaire qui était la rotation du poignet.
Oui.
Or, la version initiale du robot Poppy ne possède pas de poignet. Donc, nous avons rajouté un moteur, une articulation pour pouvoir faire des exercices. Je vous fais l'exercice, ça passe peut-être moins bien à la radio, mais vous voyez...
Je vois votre...
Mon poignet qui tourne.
Ouais.
Voilà, vous voyez, donc on vient faire de la co-conception.
En plus, vous disiez que vous pouviez même confier ça à des étudiants. Hein.
Bien sûr. Bien sûr, chaque année, 30 à 40 étudiants de Télécom Bretagne et de l'IMT Atlantique, donc, notre nouvelle école, travaillent sur des projets qui sont proposés par mon équipe de recherche. Donc, souvent des jeunes femmes d'ailleurs qui ont une certaine appétence pour l'interaction entre la médecine et l'informatique.
Oui.
Et voilà, donc c'est 40 étudiants de première année, deuxième année, troisième année, par apprentissage, doctorant, etc., travaillent sur des projets donc liés aux personnes fragiles. Et donc, sur ce projet CARAL, certains étudiants ont travaillé, par exemple, sur le poignet. D'autres ont travaillé sur la visualisation du membre, parce que le kinésithérapeute vous explique que pour tel geste de rééducation, il faut faire très attention à l'angle du coude. Et le patient, il est un petit peu perdu. Vous voyez, il regarde le robot, mais il ne sait pas bien quelle est l'articulation sur laquelle il doit porter son attention. Eh bien, un groupe d'étudiants, pendant 6 mois, a travaillé et a implanté des diodes électroluminescentes, les LED, de couleurs différentes, sur le bras et l'avant-bras du robot. Et les LED vont s'allumer pour certains exercices. Et donc, le patient, automatiquement, va faire attention, peut-être, à l'articulation, au coude, parce que lui-même avait mal réalisé cet exercice. Vous voyez, le robot s'est rendu compte que le coude ne possédait pas la bonne inclinaison. Eh bien, les LED vont, par exemple, s'allumer en rouge, alors qu'elles étaient vertes auparavant, parce que là, le bras n'est pas bien placé.
À ce stade, on pourrait imaginer que le robot fasse mieux que le kiné.
On peut parler peut-être de kiné un peu augmenté, en jouant sur des mots à la mode. Non, le robot ne fera jamais mieux que le kiné. Mais le robot peut soulager le kiné de gestes répétitifs. Parce que, en réalité, on fait de la rééducation fonctionnelle. Donc, M. Rémineris nous explique que la kinésithérapie, bien souvent, il y a un contact physique entre les doigts magiques du kinésithérapeute.
Oui, on le sent, effectivement. Moi, voilà. Je sors d'un traitement, j'ai l'impression que le kiné avait son cerveau au bout des doigts.
Le cerveau, au moins des yeux.
Ouais.
Au bout des doigts, là, c'est la kinésithérapie. Alors que nous, le robot ne touche jamais le patient. Donc, on fait de la rééducation fonctionnelle.
Oui, c'est la grande différence. Ouais.
Voilà. Donc, il n'y a pas de contact physique.
Non.
Et donc, si notre plateforme devient opérationnelle, notre robot pourra soulager le kinésithérapeute de ses gestes répétitifs. Veuillez me faire 10 fois cet exercice, puis 10 fois cet exercice, etc. Mais pendant ce temps, le kiné, lui, il peut faire de la vraie kinésithérapie, avec ses doigts équipés de cerveau ou des yeux, comme on le disait.
Oui, ça le décharge pour un savoir-faire qui est très spécifiquement humain, qui est le sien, et qui n'est pas celui d'une machine.
Exactement.
Il y a tellement... Les questions s'entrechoquent dans mon cerveau, là, parce que je ne suis plus mon papier. Mais je reviens sur une chose que vous avez dit tout à l'heure. Enfin, vous ne l'avez pas dit, mais... Si, vous avez parlé d'un robot où on peut reproduire les pièces. Et là, on en arrive à l'open source. on en arrive au fait que ce robot, n'importe qui peut en avoir les plans, mais les plans d'une pièce mécanique, c'est encore... En démontant un robot, à la limite, on pourrait le faire, mais vous donnez aussi en open source tous les codes, enfin toute l'intelligence, toute l'informatique. Ça, c'est un choix un peu radical, d'autant plus qu'on est... Parce que la recherche vit avec de l'argent, avec beaucoup d'argent. Et donc, quel est l'intérêt... Ouais, j'ai un peu sauté, ça, on est vers la fin. Là. Mais bon. Quel est l'intérêt? Pourquoi d'emblée mettre cette contrainte, c'est une contrainte open source sur ce projet Keral? Ouais.
Alors, d'emblée, on ne l'a pas mis. Hein, on n'a pas fait ce choix de l'open source, mais disons, d'accord. C'est une culture quand même du laboratoire. Oui. C'est une culture qu'ont beaucoup de scientifiques, hein, c'est que les avancées, ben, vous souhaitez les mettre à la disposition de la communauté scientifique. Donc le projet Keral qui s'appuie sur le robot Poppy ben, a été un succès, je pense, ben, parce que le robot Poppy possédait la colonne vertébrale, mais était aussi en open source, comme vous le disiez. Donc open source, hein, je le rappelle pour les auditeurs qui sont peut-être pas familiarisé, c'est oui. Un terme qui vient de l'informatique. Hein. Donc un logiciel open source, c'est un logiciel que vous pouvez voir, modifier à votre convenance et distribuer comme vous le souhaitez,
oui.
À condition de ne pas changer la licence. Donc le robot Poppy, effectivement, possède tout un ensemble de bibliothèques déjà qui permettent de bouger le pied, la jambe droite, le cou, le dos, etc. Voilà, et toutes ces bibliothèques, elles sont ouvertes, vous pouvez les utiliser, les implémenter dans votre robot. Toutes les recherches que l'on a menées, tous les algorithmes de kiné qu'on a mis au point sont également à la disposition de la communauté scientifique. Deuxièmement, le robot est également en open source au niveau mécanique. Alors vous disiez à l'instant, on peut démonter le robot et refaire le pièce, mais comme il est fabriqué avec une imprimante 3D, c'est beaucoup plus aisé que ce que vous venez de décrire. Il suffit de récupérer le fichier.
Oui.
Le fichier. Vous voyez, donc un collègue indien peut récupérer le fichier du nouveau poignet.
Il aura exactement la pièce.
En quelques millisecondes, ouais. Il a récupéré le fichier, il le met, ce fichier, sur son imprimante 3D, et 10 minutes après, il récupère la pièce qui a été mise au point ici à Brest. Vous voyez, donc il est en open source à ce niveau-là aussi. Donc voilà l'intérêt aussi.
Mais alors là, ce robot a été fabriqué par une entreprise privée. Comment s'articulent les intérêts d'une entreprise privée avec l'intérêt d'un laboratoire public qui travaille avec de l'argent public et en plus pour une œuvre un peu, qui servira à tout le monde, enfin une œuvre de santé. Comment une entreprise se place là-dedans, hein?
Alors, l'entreprise avec laquelle nous avons travaillé, il n'y a pas de secret, hein, c'est l'entreprise Génération Robots, oui. Qui se dit leader en France de la distribution des robots. Donc, dès que vous achetez un robot Piper, par exemple, comme un Bibus à Brest, là, c'est le robot qui vient vous présenter les horaires des bus, où on le voit aussi à la SNCF ou chez Renault. Donc, c'est Génération Robot qui vend ce robot. Le robot Nao, qu'on voit aussi très souvent dans les maisons de retraite, etc. Donc, Génération Robot a toute une clientèle comme ceci, dont eux, leur but, évidemment, comme toute entreprise privée, c'est de vendre des robots. Et donc le projet Keral, on a oublié de le dire, mais il est soutenu par l'Europe. Donc c'est un projet qui fait partie d'un grand projet européen. Donc il devait associer différentes catégories d'acteurs, des laboratoires publics, des entreprises privées.
Ça, c'était une contrainte pour répondre à l'appel à projet européen.
Ouais. Et c'est même un atout, je dirais, d'avoir une entreprise privée. Hein,
ouais.
Donc les chercheurs sortent un peu de leur tour d'ivoire. Et donc tous les 3 mois, on avait des réunions au sein de l'entreprise à Bordeaux, où alors, les Bordelais venaient nous voir ici à Brest. Des réunions également au CHU, parce qu'il y avait donc 3 partenaires. Le CHU de Brest, l'IMT Atlantique, et puis l'entreprise Génération Robot. Alors quel est l'intérêt, pour répondre précisément à votre question? Pour Génération Robot, eh bien, c'est d'élargir un petit peu la palette des robots qu'ils vendent et la palette des applications surtout. Beaucoup de robots qu'ils vendent sont destinés à un rôle pédagogique. On va vendre des robots dans des écoles, dans des lycées, des universités. Et là, ils voyaient un débouché vers le médical. À ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de robots, enfin de ce type, des robots compagnons qui sont utilisés dans le médical.
Et l'entreprise seule n'aura pas été capable de faire un robot aussi évolué, aussi...
Je pense que l'entreprise aurait eu plus de difficultés à collaborer avec un CHU. Vous voyez, oui, bien sûr. Ouais. Voilà, déjà, entre établissements publics, des fois, ce n'est pas facile. Et je crois qu'à Brest, il y a d'autres collaborations entre l'université, les écoles d'ingénieurs et le CHU, qui sont à un très, très bon niveau.
Oui.
Voilà, un niveau, très bon niveau national ou même international. Mais voilà, nous, on a apporté cette collaboration. Et puis l'entreprise nous a apporté son savoir-faire en génie industriel, pour ce qu'on appelle durcir les algorithmes, en faire, à partir d'un produit de recherche, en faire un vrai produit, voilà. On ne l'a pas encore dit, mais qui a été déployé et qui a été testé par des vrais patients.
J'en arrive, parce qu'il va falloir pas conclure, mais on a, bon, sur la fin, quelle épreuve vous avez définie par avance pour dire qu'à un moment, votre projet sera non pas abouti, mais aura atteint un stade satisfaisant du point de vue des ambitions de départ, quoi.
Donc effectivement, quand on a décrit le projet, on a décrit un petit peu le protocole. Donc pendant un an, par exemple, on va mettre au point la plateforme robotique. Ensuite, à l'IMT Atlantique, on a ce qu'on appelle un living lab. Donc on a reconstitué un domicile et donc des kinésithérapeutes ont joué le rôle de patient. Pendant plusieurs mois, on a mis au point la plateforme. Vous voyez, les kinés ont joué le rôle de patient. Et puis ensuite, dans le projet, nous l'avions décrit, mais on a tenu parole, il y avait la phase d'évaluation et de déploiement en situation réelle.
C'est important de dire comment ça a été évalué, oui.
Voilà, ça a été évalué, donc testé en situation réelle. Donc l'équipe d'Olivier Rémineris a identifié 30 patients qui souffraient de lombalgie. Et parmi cette cohorte de 30 patients, on a défini deux cohortes. Une cohorte de 15 personnes qui a bénéficié de la rééducation avec le robot et 15 autres patients qui ont subi, bénéficié, une rééducation classique. Donc, un certain nombre de patients étaient suivis à l'hôpital de Brest, ici, et l'autre cohorte était suivie au centre de rééducation de Peyrarydi à Roscoff. Et à l'issue de ces 6 mois d'expérimentation, de nombreuses analyses ont été faites, et les médecins ont montré qu'il y avait une non-infériorité de la rééducation faite par les robots par rapport à une rééducation classique. Donc la rééducation n'est pas meilleure, mais elle n'est pas inférieure.
Elle est aussi meilleure, oui.
Elle donne, les résultats sont identiques. Donc à partir de là, le champ des possibles s'élargit et on peut tout à fait imaginer peut-être dans le futur, dans un cabinet de kiné, comme il y a une piscine par exemple dans certains cabinets, une salle avec différents dispositifs, qui est une salle de robotique.
Alors quelles sont les conditions pour imaginer ce futur que, concrètement, vous n'êtes pas un rêveur, vous êtes un chercheur qui sait manier la recherche et l'argent et les projets. Qu'est-ce qu'il faudrait pour atteindre ce stade économiquement viable où on peut produire des robots, les vendre et les choses s'équilibrent, quoi.
Oui, alors, effectivement, il y avait une non-infériorité de la rééducation par les robots, mais les patients nous ont adressé de nombreuses critiques.
Ah, d'accord, oui.
Par exemple, les exercices étaient trop répétitifs, vous voyez. Vous êtes seul face à un robot pendant une demi-heure, ouais. Et bien au bout de quelques minutes, vous pouvez vous lasser si le robot vous demande toujours les mêmes exercices.
D'accord.
Donc la palette des exercices proposés était trop faible. Donc il faut qu'on améliore cette palette. Il faut qu'on améliore aussi les interactions entre la machine et le patient. Le langage doit être plus approprié. Voilà des axes d'amélioration. Et parmi les grands axes d'amélioration du projet, il faudrait qu'on arrive à capter davantage l'attitude du patient, même les émotions peut-être du patient. Est-ce que le patient souffre quand je lui demande un exercice? Est-ce que le rythme cardiaque s'accélère? Est-ce que la sudation devient trop importante?
Faut des
éléments. Donc ça, c'est les suites un peu du projet. Il faudrait bien sentir ce ressenti du patient pour pouvoir peut-être adapter, dégrader les exercices, les personnaliser davantage.
Dégrader les exercices?
Oui, peut-être, parce que je lui demande de faire un exercice et après l'opération de l'épaule, le
de
patient...
De l'adapter à l'état de son corps à ce moment-là. Ouais.
Exactement.
Surtout que ça évolue, parce qu'il est en rééducation, ça évolue.
Évidemment, on espère que ça évolue et dans le bon sens, si je peux dire.
Oui, sinon le travail n'est pas fait. On a vu beaucoup de choses. Alors, combien il faudrait d'argent pour aller à l'étape suivante? Je sais pas, on n'est pas obligé de parler d'argent, mais comment ça se passe dans la tête d'un chercheur qui a consacré une énergie colossale dans un projet qui a marché, ce projet a marché. Est-ce que vous...
Disons, il a marché en termes de recherche. Donc le chercheur, il doit faire des publications scientifiques. Donc on a présenté ce projet aux États-Unis, au Japon, en France.
D'accord.
On a écrit nombreux articles, etc. C'est un projet qui est reconnu par la communauté internationale. Mais vu mon âge un peu avancé, je souhaiterais aussi participer au développement économique du territoire.
C'est ça.
Et effectivement, donc, vous me demandez combien d'argent la radio est prête à mettre. Non, non, c'est une boutade, vous couperez ça.
Radio UF est dans l'investissement dans la recherche.
Non, je pense que 2 années de post-doc seraient intéressantes. Donc, il nous manquerait un peu plus de 100 000 euros.
C'est ça, ouais, c'est 50 000 à peu près.
Oui, ouais. Voilà, c'est ça.
C'est pas énorme, si, c'est énorme, mais après, il y a des enjeux tellement importants.
Oui, voilà. Ensuite, le robot lui-même ne coûte pas très cher. Il coûte 2 000 euros environ. Voilà. Et puis, le robot, une fois que la séance de rééducation fonctionnelle est terminée, ben, vous pouvez le mettre à la disposition d'un autre patient. Vous allez à la pharmacie récupérer une paire de béquilles, eh bien, on pourrait tout à fait imaginer que vous empruntiez le robot pendant 15 jours, le temps de votre rééducation.
Il faudrait faire des calculs avec la caisse de sécurité sociale.
Oui,
aussi,
ou ouais. Des économistes de la santé.
Oui, c'est ça. Ouais. Et on a ça à l'UBO, je crois, des économistes de la santé. Pour finir, une question classique dans l'intelligence artificielle, c'est la question de la supériorité. Tout à l'heure, on l'a abordée toute petite. Mais avant l'émission, on a parlé à un moment de la reconnaissance d'image. Et l'image, ça peut être l'imagerie médicale, ça peut être un cancer du sein, une tumeur du cerveau, etc. Pour être capable, à partir d'une tache sombre, enfin rien, quoi, dire là, il y a un cancer, il n'y a pas cancer, il faut une expérience colossale, il faut un savoir-faire de radiologue. Et là, tout à l'heure, vous me disiez que... aujourd'hui, on peut avoir des machines qui ont une capacité d'interprétation d'imagerie médicale qui serait supérieure à des radiologues. Et un radiologue est bien payé, on le sait. Et là, encore du point de vue économique, la machine ferait mieux, c'est possible ça, qu'un radiologue ?
La machine donc, qui a fait de l'apprentissage sur des millions de clichés, des dizaines de millions de clichés, et cette machine, elle a appris lors de l'apprentissage supervisé, avec sans doute les meilleurs experts internationaux, les meilleurs radiologues, les meilleurs spécialistes.
Oui, il peut prendre tout.
Donc, qui sont venus cumuler leurs connaissances, et dont la machine a emmagasiné eh bien, le savoir-faire, l'expertise des 100 meilleurs radiologues internationaux. Donc, obligatoirement, la force du groupe est là.
Oui.
Et la machine a également vu des millions d'exemples de mammographie, pour reprendre votre exemple, sur la planète entière, et a peut-être vu le cas très très rare, l'a identifié. Et si ce cas se reproduit à Brest, eh bien le radiologue brestois, il a sa compétence qui est tout à fait pointue, mais il ne peut pas avoir la même connaissance qu'un dispositif tel que je viens de le décrire. Donc, et la machine va proposer ou va mettre en alerte en disant « Attention, il y a suspicion de cancer sur cette image. Bah, » elle ne va pas vous expliquer pourquoi, parce qu'on ne comprend pas bien comment elle résonne, mais elle vous prévient. Et évidemment, l'humain aura toujours le dernier mot pour en valider ou au moins émettre un doute.
C'est ça, ouais.
Voilà, et c'est en ce sens que je disais que, enfin, pour ce cas de figure particulier, la machine aura une meilleure expertise que celle d'un humain qui va être isolé.
Oui, mais elle ne va pas le remplacer.
Elle ne va pas le remplacer, évidemment.
À un moment, il y a une extériorisation d'une compétence très précise,
voilà,
qui est mieux faite par une machine. Mais le dispositif complet, évidemment, ne peut être assuré que par un radiologue et des équipes médicales.
Voilà, le radiologue aura toujours, effectivement, le dernier mot, mais il va être aidé avec un dispositif qui est très performant et qui sera de plus en plus performant. Parce que ces machines eh bien, apprennent toujours davantage d'exemples et toujours davantage de mammographies, toujours davantage de problèmes médicaux. Pardon.
Bien, bon, on va s'arrêter là parce que là, on arrive au terme de l'émission. Eh bien, je vous remercie. Merci donc André Thépeau, professeur émérite à IMT Atlantique. La semaine prochaine, nous recevons Camille Matouk, doctorant à l'École des sciences de la mer et au laboratoire des structures de la mer. Il nous présentera dans le cadre de Histoire de ma thèse son travail sur l'éolien flottant. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U et sur la page des bibliothèques universitaires de l'UBO.
Le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Histoire de ma recherche. Thank you.